Vous écoutez Active Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts.
Active
Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 130e numéro du Sainté Night Club. C'est notre numéro anniversaire puisque le Sainté Night Club a 3 ans ce soir. Il y a 3 ans, la SSE faisait match nul un partout contre Reims avec un but de Charles Abbey. Alors suite à ce match légendaire dont tout le monde se souvient par cœur, comme par exemple de cette 79e minute où Nathanaël Mboukou côté Reims a pris un carton jaune, eh bien l'équipe de Sainté Inside se rassemble et convie Timothée Mémon pour une émission qui elle aussi restera mémorable puisque la diffusion aura un gros point commun avec la rencontre évoquée plus tôt, les problèmes techniques. 3 ans plus tard, après avoir accueilli des invités exceptionnels comme Julien Cazard, Nicolas Marin ou encore Johan Molo, le Sainté Night Club est toujours là, malgré la Ligue 2, malgré les résultats en dents de scie, et est devenu l'émission préférée de tous les supporters des Verts, sondage réalisé par mes soins auprès d'une audience composée de mon cousin et mon grand-père. J'en profite pour saluer Timothée Chalamet qui doit probablement être sur Twitch actuellement pour écouter notre débrief de PFC à SSE sous la pluie et lui rappeler par la même occasion que j'ai fait le conservatoire de théâtre et que je suis dispo pour le tournage de Dune 3. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour les 3 ans du Sainté Night Club et pour cet anniversaire, on a fait appel à deux chroniqueurs d'exception, tous deux amoureux de notre écusson à l'étoile tricolore. Avec nous ce soir, Jesse Moulin. Bonsoir Jesse.
Bonsoir tout le monde.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien. J'étais un peu à la bourre, mais ça va très bien. Très content de débriefer encore pour notre chère équipe qu'on aime tant.
Tiens, d'ailleurs, j'évoquais vite fait le blason, le nouvel écusson. T'en penses quoi de ce nouvel écusson, toi, d'ailleurs ?
Bon, comme à chaque fois, ça tranche un peu. On aime bien à Sainté un peu les... on est toujours... on aime toujours un peu ce qui est ancien, on pense toujours un peu à ce qui était avant, donc ça tranche un peu, mais voilà, on va s'y habituer, on va s'y faire.
Comme le Japon, un écusson entre modernité et tradition.
Ouais, voilà.
Également avec nous, le parrain de notre émission qui nous accompagne depuis le début, depuis la toute première, Timothée Mémon. Bonsoir Tim.
Bonsoir à tous, joyeux anniversaire, bravo pour ce que vous faites depuis 3 ans, c'est grandiose. Et puis je suis ravi que Jesse arrive en reconnaissant que si on est en retard, c'est de son fait, parce que je crois que je vais te rentrer dedans, Jesse, aujourd'hui. Je te l'annonce.
Ok.
Très bien.
Merci.
Tu vois, Bruno Irles, mais en pire.
Super le PTSD, ça rappelle des bons souvenirs.
Non, Pas tellement personnellement, mais bon, après, c'est comme ça des fois. Voilà, les coachs, il y en a qui sont en effet pour s'entendre, il y en a d'autres que non, donc voilà, on va tirer sur personne.
Tiens, t'as invoqué d'autres noms.
Oui,
c'est bien, ça va chambrer ce soir. Tim, vite fait, je sais pas pourquoi je vous pose cette question ce soir en particulier, mais toi, t'en penses quoi du nouvel écusson ?
Moi, je l'aime assez. Bon, je suis d'accord avec Jesse, on est tous un peu conservateurs à Saint-Etienne, on ne veut pas changer de stade, on ne veut pas que le stade change de forme, on ne veut pas que la couleur change, on ne voudrait pas descendre en Ligue 1, bon ça c'est normal. Mais pour les cuissons, je trouve que justement il a un petit côté un petit peu vintage, un petit peu rétro, il me déplaît pas, c'est dans l'air du temps de changer ses logos. Je suis content qu'on n'ait pas un logo graphique façon Juventus.
Ouais. C'est moi, quand il y a eu le changement de l'écusson, c'est le premier truc que je me suis dit, putain, j'espère que ce sera pas en mode Juventus ou FC Nantes, là, ultra design, ultra épuré.
Et puis de toute façon, il y a un truc qu'ils peuvent pas enlever, c'est l'étoile.
Ah bah ça c'est sûr.
Ça c'est clair. Et tu vois, j'allais déraper d'entrée, Jesse, et je vais déraper, tant pis. La vérité, c'est que Lyon a sorti une espèce de gamme rétro avec leur gros logo bicolore avec le OL. Alors ça reste le logo de l'OL, mais justement je trouve que cette gamme, elle est pas dégueulasse. Si on se met dans la peau d'un supporter de Lyon, j'irai pas l'acheter, rassurez-vous. Et en fait je trouve ça plutôt réussi, ces logos qui choisissent l'axe vintage que l'axe ultra moderne comme ouais. Comme le, je prends un exemple.
Et si tu te mets du côté stéphanois, il est comment le logo?
Dégueu.
C'est ça qu'on veut. Bon, et après avoir annoncé deux beaux gosses et comme on doit respecter la parité, j'accueille Karl ce soir. Bonsoir Karl.
T'es vraiment moche, petit con.
Non, mais t'inquiète pas, je suis pas en train de dire que tu es moche, je dis qu'on est moche tous les deux comparé à Jesse et Timothée quand même. On a le regard le plus puissant de la télé française et la plus belle barbe du football français, donc c'est logique.
Si je suis dans le même bateau que toi, ça me va alors.
Bon, en tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce troisième anniversaire du Synthé Night Club. On est là pour débriefer le match contre le PFC de ce week-end. On va se projeter également sur les échéances à venir. Et puis, on jouera au SNC Challenge comme chaque semaine depuis le début de saison. Alors, c'est parti, débrief.
Active Synthé Night Club, le débrief.
Bien, messieurs, alors on va évidemment commencer avec la rencontre de ce samedi contre le Paris FC, qui était un match qu'on va qualifier de compliqué à tout point de vue. Rapidement, vos impressions sur le match, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette rencontre? Je commence avec toi, Jesse.
Bon, après, comme tout le monde l'a vu, là, c'était un match compliqué, en partie à cause du terrain qui était extrêmement gras et glissant, voilà. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que on avance quand même à l'extérieur. Un point, c'est un point. On perd pas. On continue d'être dans une petite série. Ok, on brise la série de victoires, mais on continue dans une certaine série d'invincibilité. On prend pas de but. Donc voilà, même si le match a été un peu plus pauvre en occasion et dans le jeu, pour moi, je suis content de prendre un point à Paris.
Petite anecdote sur le côté pauvre en occasion, le résumé de la rencontre que j'ai maté juste avant l'émission pour me remettre en tête les actions clés dure 3 minutes 50 avec le générique de début et le générique de fin et à la fin ils se sont sur le résumé officiel de la Ligue 2, ils ont même pas mis les stats du match qui mettent pourtant chaque rencontre parce que je pense que c'était un peu terrible. Timothée, toi tu retiens quoi de samedi?
Je vais dire l'ambiance du parkage, puisque j'avais la chance d'y être.
Ouais.
C'est toujours
ah oui, cool, j'ai vu ta story.
Toujours cool de retourner en parkage, parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier de journaliste et que je suis en tribune de presse, et que c'est quand même agréable de reconsommer le football comme je le consommais quand j'avais 15 ans.
C'était la première fois que tu retournais cool, en parkage depuis que tu as commencé à être journaliste?
Non. Déjà, quand je rentre à Saint-Étienne, je vais presque exclusivement en Cop Nord. Okay. Et en parkage, je fais souvent les matchs aux abords de Paris. J'étais à Troyes cette année. Je pense que je vais faire Quevilly-Rouen. Okay. Et voilà, c'est des endroits sympas. Non, si je dis ça, c'est parce qu'on est là pour débriefer le match sur le plan sportif. Et évidemment, c'est pour pointer du doigt le fait qu'il n'y a pas eu grand-chose. Très, très clairement, depuis le parkage, évidemment, je voyais que la pluie tombait, mais on ne se rendait pas compte à quel point la pelouse était mauvaise par rapport à ce qu'on voyait à la télé et puis par rapport au ressenti qu'on énonçait les acteurs après match. On voyait, par exemple, à un moment, je ne comprenais pas, je disais, mais Masson, on a l'impression qu'il fait des tout petits pas, mais en fait, j'ai compris après coup que c'était juste qu'il tenait pas personne tenait sur la pelouse, donc c'était extrêmement difficile. Donc je crois qu'effectivement, je rejoins Jesse. Dans ces conditions, on ne peut pas gagner tous les matchs. Tu en as gagné 3 d'affilée. Tu fais un nul à l'extérieur dans ces conditions-là. Je citerai Alain Perrin en disant que ça n'a rien d'infamant.
C'est pour toi, si on joue ce match il y a quelques semaines, on le perd?
Possiblement, ouais. Ouais, c'est juste de se poser cette question parce qu'on concède quand même quelques situations. On en a aussi quelques-unes malgré les conditions, même si le résumé a été pauvre. Il y a eu quelques joueurs qui m'ont plu, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, certainement que dans le creux de la vague, c'est typiquement le genre de match que tu vas perdre salement 1-0 sur un coup du sort. Et là, tu as le mérite de rester invaincu.
Ouais. Karl, de manière un petit peu générale, qu'est-ce que les gens ressortent de ce match?
Il y a ceux qui sont assez vent debout contre l'état de la pelouse, mais je pense que ça, c'est un sentiment assez général. Il y a plutôt ceux qui disent que c'est, voilà, on continue toujours à avancer, donc c'est toujours un bon point de prix. Il y en a qui sont plutôt frustrés. Je salue le chat sur YouTube, avec notamment Brian qui nous dit que c'était honteux ce terrain à Paris. Il y a Fabio, au contraire, qui dit on s'en sort très bien avec ce pénalty oublié, donc ce point de prix est le bienvenu, il va peut-être compter en fin de saison. Il y a Joe42 qui nous dit très déçu de ce match et de l'état de la pelouse, c'est honteux d'avoir un terrain de ce type là en professionnel. Ouais. Match dégueulasse sur un terrain dégueulasse pour un temps dégueulasse, sinon rien d'autre, ça c'est Patrice. Et puis sinon il y a plein de messages nous souhaitant joyeux anniversaire, donc merci à tout le monde.
Ah, merci.
Je vais pas te défendre forcément le stade Charletti, qui est vraiment un stade horrible où il fait froid tout le temps, même au mois d'août, et il y a peu d'ambiance et tout ça. Après, on peut estimer que c'est indigent et tout ça, mais le PFC a un problème avec sa pelouse depuis très longtemps. Ils l'ont remplacé pas longtemps. J'ai fait un match, j'ai fait PFC Bordeaux pour le boulot, et ils l'avaient remplacé. La pelouse, elle est pas mal. Le fait est que pour avoir été à Paris, il a pu presque s'en discontinuer pendant 3 jours. Et il y a un moment, on peut dire c'est un scandale, c'est honteux. Il y a un moment, je crois que les mecs peuvent pas non plus faire de miracle.
Oui, oui.
Il faut pas oublier qu'il y a quelques temps encore, des matchs comme ça, c'était régulièrement. En Ligue 2, en Ligue 1, on a vraiment plus l'habitude parce que les terrains ont beaucoup évolué. Tous les clubs sont passés sur des terrains hybrides et tout ça. Mais en Ligue 2, c'était quand même assez fréquent et ça devient assez rare maintenant d'avoir des matchs avec une pelouse comme ça. Et en plus, c'est un peu malgré eux parce que, bon, comme disait Timo, il a plu pendant 3 jours et bon, au bout d'un moment, voilà.
Oui, les conditions climatiques ont fait que de toute façon c'était compliqué d'avoir une bonne pelouse. Ouais. Et d'ailleurs, le match des féminines qui était prévu dans la foulée a été reporté. Hein. Justement, il y avait quelqu'un dans le chat qui évoquait le penalty oublié à la fin et qu'on s'en sortait bien vis-à-vis de ça. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette action. Toi, Jesse, tu estimes qu'il y avait penalty sur le retour de Michael Nadé?
Oui. Alors après, le ralenti amplifie un peu
toujours.
Voilà, la faute toujours. Mais c'est clairement une faute. Si c'est en Ligue 1 avec la VAR, il y a pénalty.
Ouais.
Voilà. Après, on est en Ligue 2, on n'est pas en Ligue 1, donc c'est comme ça. Tant mieux, on va le prendre. Mais voilà, ce genre d'action, moi, ce qui me fait aussi il y a 2 mois, je pense qu'un truc comme ça aurait été sifflé.
Ouais.
Donc on sent qu'il y a quelque chose qui a tourné dans l'air de l'équipe. Voilà, on sent qu'on est dans une nouvelle dynamique et que on arrive à faire tourner un peu les événements en notre faveur. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi c'est un bon point de prix, y compris parce que voilà, il y a le penalty. On sent qu'il y a quand même des décisions, des choses qui sont un peu plus en notre faveur et qui nous permettent d'avancer.
Ouais, c'est le côté un peu irrationnel du foot, quoi.
Ouais. Voilà, c'est, on sait que ça tourne dans une saison, ben voilà, ça, l'heure est venue, il faut en profiter et continuer à surfer sur cette vague.
Ouais. Et justement, du coup, là, c'est Nadé qui fait la potentielle faute non sifflée. Tim, t'en as pensé quoi du match de Nadé qui en ce moment, est plutôt bien en forme? De manière générale, si on compte cette action ou si on la compte pas, t'as pensé quoi de son match?
Sur l'action, j'y reviendrai pas parce que je l'ai pas bien vu en étant en parkage et je l'ai pas revu à la télé. Donc,
okay.
Je pense que le... On va s'en tenir à l'avis de Jesse là-dessus. Nadé, on a été un peu dur avec lui. C'est vrai que pendant l'absence de Batou Binsika, et là récemment, il est mieux que ce que ça a pu être. Je continue à pas y voir un grand défenseur central, ne serait-ce que de Ligue 1 en puissance. Mais dans ce match-là, avec ces conditions-là, il fallait faire preuve de sérieux, il l'a fait. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a quand même la sensation depuis le début de la saison que le leader de la défense, c'est plutôt Briançon, et que Batou Binsika, avec ses qualités à lui, hein, qui sont différentes, mais entre guillemets, prend sa roue, est un peu son sergent. Et je trouve que Batou Binsika a bien endossé le rôle de leader.
Ouais.
Ça m'a plu.
Bah là,
je pense que la CAN lui a fait beaucoup de bien.
Je vous ai affiché les stats là de Batou Binsika. C'est vrai qu'il y a notamment le côté 12 duels gagnés sur 13 qui est assez joli à voir. Karl, dans le chat, par rapport à du coup la faute de Nadé et l'image globale de son match.
Écoutez, évidemment que pour tout le monde dans le chat, il y a pénalty indiscutable.
Okay.
Pénalty sans problème pour Ojo 42. David qui nous dit, s'il n'y avait pas la VAR, c'était péno et on perdait ce match. Il y a pénalty sur la faute de Naté 100 fois. Après, évidemment, qu'il n'y a pas Stial, sinon, plus globalement, qui nous dit que Nadé est rassurant tout le match, sauf sur ce pénalty-là, mais peut-être qu'il ne faut pas oublier, évidemment, les 80 premières minutes. Batubentika est meilleur que Briançon, pour moi personnellement, ça c'est Jo 42. Il y a Romain qui pose la question, est-ce que Batounadé ne serait pas la meilleure paire aujourd'hui pour la SSE? LB Show qui va dans ce sens-là et qui dit Batounadé, je préfère à Batubriançon. Batubentika, très bon match. Il y a Céline qui nous dit, il faut peut-être souligner les performances exceptionnelles de Nadé en ce moment. Hormis ce week-end où il aurait pu causer un pénalty, en ce moment il est très solide et rassurant, contrairement à il y a quelques temps.
Exceptionnel, je dirais pas ça non plus, mais c'est vrai que depuis le retour du nouveau coach, l'arrivée du nouveau coach, il est quand même.
Il
est remis sur le devant de la scène, ouais. Il a saisi sa chance, hein, il fait des bons matchs, il est dans ce qu'il sait faire. Voilà, c'est un défenseur assez rugueux. Il faut pas qu'il en fasse trop, comme on voit sur le penalty, mais enfin sur le possible penalty. Voilà. Après, au niveau de ces trois joueurs en défense, ils ont chacun leur qualité et ils se complémentent assez bien. Mais c'est vrai que là, sur un match comme ça, on prend pas de but. Ils ont été quand même assez cohérents et solides. Donc bon, à voir pour la suite.
Ouais. Bon, c'est vrai que ça fait partie
de pondérer. Ouais, sur le fait de pondérer le côté exceptionnel, vraiment, Jesse me l'a enlevé de la bouche. Exceptionnel au regard de ce à quoi on s'attend de Nadé et de son absence de progression ou presque sur ces quatre dernières années. À ce moment-là, c'est presque exceptionnel.
C'est qu'il fait des belles choses et dans la continuité, quand on veut l'installer, ou enfin, quand il doit s'installer, après, c'est plus compliqué. Voilà. Mais sur un match, sur deux matchs, voire trois matchs, il est capable de faire des très belles choses, mais après, dans la constance et pour s'installer au poste, c'est plus dur. Après, est-ce que c'est parce qu'il est jeune et qu'il va prendre en maturité à un moment donné et être constant, être régulier? Voilà, c'est vrai que c'est un peu comme les résultats de Saint-Etienne cette année. On y croit souvent et puis il y a une petite rechute qui nous fait un peu dégonfler le soufflet. Donc,
ouais.
À voir pour Mika.
Oui, mais Jesse, j'ai juste une question à te poser parce que toi, tu l'as connu plusieurs saisons dans le vestiaire. Ouais. Et c'est quel état d'esprit? J'imagine que c'est irréprochable et toujours l'envie de bien
faire. Ouais, après, moi, je l'ai connu, c'était un gamin. Hein. C'était vraiment un bébé. Quand il est arrivé, c'était un très jeune défenseur. Voilà, c'est Claude Puel l'avait mis sur le devant de la scène. Il était très jeune, il n'était pas prêt, moi, je pense. Voilà, même si, bon, il avait envoyé des qualités en lui. C'était. Il m'en voudra pas si j'évoque cette anecdote, mais c'était un défenseur qui. Enfin, moi, je finissais devant lui au Stade VMA. Il est arrivé et je pense qu'il s'est mis vraiment au travail quand il a vu qu'il avait une chance d'être. Enfin, d'en faire vraiment, réellement son métier et d'avoir l'ambition de prolonger, de s'installer. Voilà, il est arrivé, comme je te disais, un peu. Puis elle est arrivée, a vu des jeunes et il les a lancés de suite. Et même eux, je pense, ils attendaient pas les jeunes. Donc ils étaient pas spécialement prêts, ni physiquement, ni mentalement. Il a pas suivi la suite logique à se dire bon ben je vais signer pro, je vais m'entraîner avec eux, je vais faire les matchs amicaux. Maintenant il est arrivé, signé pro, enchaîne, joue, tu rentres. Et quand c'est très dur quoi, c'est très dur. Donc je pense qu'il s'est quand même mis un peu au diapason et s'est professionnalisé rapidement quoi. C'est quand même pas le même joueur que quand il a débuté. C'est ça aussi qui a été dur pour Mika, c'est qu'il a souffert un peu de cette image d'un défenseur qui faisait un peu des erreurs parce qu'il était jeune et on lui a rien pardonné. Donc maintenant qu'il fait des belles performances comme ça, c'est pour ça qu'il faut, s'il arrive à continuer à s'installer, à être régulier, ça serait d'autant plus gratifiant pour lui et satisfaisant.
Bah surtout qu'avec les blessures récurrentes de Briançon, c'est bien d'avoir Nadé qui
ouais, il est voué à jouer souvent quand même.
Ouais. Petite précision pour ceux qui se demanderaient, le test VMA, c'est un test qu'on fait souvent en début de saison, c'est un test physique pour calculer la VO de max. Voilà, c'est vraiment le test physique par excellence du début de saison que en général pas grand monde apprécie. Ouais.
Ah, non, non, c'est tout.
Ok.
C'est tout.
Vu qu'on est sur les.
On n'aime pas trop ça.
Ouais. J'en ai fait un petit peu aussi à une époque.
Ta meilleure intervention, Jesse.
Tant qu'on est sur les individualités.
Je te lâcherai pas.
Tant qu'on est sur les individualités, je veux bien vous demander vos tops et vos flops. Tim, si tu devais me citer les tops de la rencontre pour toi, et je vous le demande aussi dans le chat, si vous pouviez me citer vos tops de la rencontre, je vous écoute.
Alors, mon top de la rencontre, ce serait peut-être Kebal, mais je crois qu'on est là pour parler des Stéphanois. je l'ai dit, Batoubine Sika, encore une fois, j'ai bien aimé qu'il endosse ce rôle de taulier.
Ouais.
Il a été agressif ce qu'il faut, bon dans les duels. Mon conduit a été plutôt bon, et on voit quand même que c'est un garçon, quand il arrive à enchaîner un petit peu, à avoir le physique, bah, c'est quand même un mec qui fait du bien au niveau Ligue 2. Et puis, j'ai pas trouvé que c'est le meilleur match de Cardona, mais j'ai aimé Cardona parce que c'est le seul qui m'a donné la sensation qu'il pouvait se passer quelque chose.
Mmh. Voilà. Que l'étincelle pouvait venir de lui, ouais. C'est vrai qu'il a vraiment multiplié les appels sur
voilà,
son côté.
Outre le poteau, ouais, outre le ballon qu'il met sur le poteau, là, en dehors de ça, voilà, quand le ballon lui arrive... Il n'y a pas beaucoup de joueurs à Sainté où tu as un petit frisson en te disant ouais. il peut faire quelque chose. Lui, ses prises de balles sont souvent bonnes. Il se met dans le sens du jeu. Donc je sais que sur la rencontre en question, sur celle de samedi, ses stats pures et dures sont pas très bonnes. Mais moi, dans le ressenti, j'ai bien aimé.
Voilà. Ok. Jesse, toi, si tu devais donner tes tops de la rencontre.
Ouais, moi pareil, Cardona, tu m'as tout dit, c'est vrai que on sent qu'il est sur la dynamique un peu de son arrivée encore, voilà, il marque, il est en confiance, donc il tente, il fait des choses, il fait beaucoup d'appels, il demande le ballon, donc c'est vrai qu'on si en regardant le match, si ça devait arriver d'un joueur, on sentait que l'étincelle pouvait arriver de lui.
Ouais.
Après, j'ai bien aimé aussi Yvan Masson.
Ouais.
Qui a eu beaucoup d'activités sur ton côté.
Il est bien physiquement, hein, Yvan Masson, depuis son retour.
Il est très bien. Et puis c'est un joueur qui a beaucoup d'activités d'habitude, mais là on sent qu'il est encore qui fait tout encore pour se faire pardonner. Alors ouais. que je pense que bon, c'est un peu derrière lui cette histoire. Mais il insiste, et ça j'adore l'état d'esprit. Voilà, il montre que même quand bon l'histoire s'est un peu tassée, il est quand même là et qu'il essaye de faire toujours le truc un peu en plus pour faire comprendre à tout le monde que bon ben il est là et c'est pour faire monter le club bon, ou du moins pour l'aider au maximum et qu'il regrette ce qui a été dit et puis voilà que c'est du passé.
Ok.
Et je mettrais Glarsonneur parce qu'on n'a pas pris de but.
Ouais.
Pour les gardiens, voilà. C'est que Timo il aime pas les gardiens mais
oui ouais. et puis au-delà du on n'a pas pris de but c'est pas on n'a pas pris de but parce qu'il y a
t'es vraiment une mauvaise personne c'est incroyable c'est les gens vont savoir à quel point tu es mauvais à quel point tu es odieux. La France va savoir et ce soir la France va savoir et on se retrouvera dans les urnes monsieur
Moulin. Méfie-toi que ça se retourne pas contre toi Timo
la France se rend surtout compte pourquoi Jesse a été aussi important dans le vestiaire pendant tout son passage à Sainté et ça c'est beau. C'est important,
ouais,
les chambres. et puis, j'ai vu que les gens dans le chat avaient donné leur top et leur flop en même temps. Donc, avant de prendre les flops du chat, je vais revenir vers vous. Timothée, toi, tes flops sur la rencontre, ce serait qui ?
Sissoko. Parce ouais. que, c'est très dur de dire Sissoko. Mais Sissoko, dans un match ouais. comme ça, il a un match qui est difficile, où il y a peu de ballons qui arrivent, où il est en bout de chaîne. Donc, forcément... C'est un match difficile, mais justement, j'aurais aimé qu'il l'a fait en deuxième période, mais qu'il vienne participer un petit peu plus. Tu vois, qu'il vienne. Vu que son équipe n'y arrivait pas, il avait le droit de participer, de décrocher un petit peu plus bas. Donc, je vais le citer. Et j'ai trouvé Mboukou un peu moins bien que ce qu'on avait pu voir.
Ouais.
Et puis Fomba.
Fomba, il s'est fait bouffer. Hein.
C'est pour l'ensemble de son œuvre en fait, mais c'est je sais que c'est dur et c'est d'autant plus dur quand il y a quelqu'un comme Jesse qui est là et qui sait ce que c'est que d'avoir été sur un terrain et tout ça. et c'est difficile de cintrer les mecs, mais la vérité c'est que Fombat, depuis qu'il a Saint-Etienne, je me demande ce qu'ils font en Ligue 2, et voilà, je vois pas le niveau suffisant, quoi, en fait.
Ouais. Tu rejoins l'analyse de Tim, Jesse?
Alors, pour rejoindre Tim qui m'a tendu la perche, c'est vrai que moi, en tant que joueur, et voilà, j'ai beaucoup de mal à chaque fois, même si j'adore être avec vous, débriefer, parler du club, j'adore ça vraiment, ça me passionne. Regarder les matchs et tout ça, en parler, mais trouver des flops, c'est vraiment le truc le plus dur que ouais. Dire les noms pour des flops, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que je ne les connais pas, ces joueurs, hein, je n'ai jamais joué avec eux, vraiment, mais même s'ils ont été nuls, il y en a, j'ai du mal à le dire, quoi. Encore, j'ai encore mon truc de joueur qui est là. Comme si, enfin voilà, j'ai, voilà. Donc quand moi souvent, voilà, quand je dis un flop, je dis plutôt, moi je voulais parler d'un beaucoup, mais j'allais dire que c'est parce que il nous a laissé sur des belles choses, on l'a un peu moins vu. Voilà, il a un peu moins percuté, mais bon, sur un terrain comme ça, là, je trouve toujours des excuses pour les flops. Ouais. Voilà, donc un beaucoup, c'est vrai que Sissoko c'est pareil, avec un terrain comme ça, c'est compliqué. Fomba, ça a été très dur dans toutes ces prises de balles, prises de décision, voilà. Donc, parce qu'il en faut dans un match, il y en a qui sont un peu moins bien. Donc, voilà, j'aurais cité ceux qui ont fait les moins belles choses, ou qui ont touché le moins de ballons, ou qui ont touché des ballons, mais qui en ont fait, qui n'est pas ressorti le meilleur d'eux-mêmes sur le match. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de donner des flops.
Ok. Karl, du coup, je viens vers toi. Désolé, j'ai laissé passer un petit peu de temps, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'exprimaient sur les tops et les flops de la rencontre.
Oui, du coup, j'ai synthétisé, parce qu'effectivement, au final, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent, ouais. Les mêmes que ceux cités par Jesse et Timothée. Mais du coup, dans les tops, évidemment, il y a Batoubensika, Cardona, Larsonneur et Masson. Il y a Pascal d'ailleurs qui notait que la plupart des actions passaient par le couloir de Masson. Il y a en revanche aussi, je sais pas si on en, je crois pas qu'on ait cité son nom, parce que au pendant de Fomba, il y avait quand même Monconduit qui a pas mal séduit dans le chat.
Ouais.
Du côté des flops, en revanche, évidemment, du coup, il y a Fomba qui est souvent cité, même Appia, et qui revient pas mal quand même ces derniers temps. Sissoko, mais je pense que c'est effectivement parce que le match était un peu compliqué pour lui, qu'il n'a pas eu non plus la masse de ballons. La pelouse, et il y a aussi les choix tactiques ou les non-choix tactiques du coach qui a procédé qu'à un seul remplacement de Bouchoirie dans les 10 dernières minutes, enfin, à l'entrée de Bouchoirie dans les 10 dernières minutes d'ailleurs, et c'était une question dans le chat de Anthony qui demandait aux deux chroniqueurs du soir ce qu'ils avaient pensé de ces non-choix d'Olivier Dalloglio.
T'es extraordinaire, Karl.
Faut voir le banc, hein.
Non, mais Karl, t'es extraordinaire parce que tel un Romain Amouma en puissance, tu fais des passes décisives de fou. J'allais justement enchaîner sur ça. C'est une question qui moi aussi m'intéresse beaucoup. Depuis que Olivier Dalloglio est arrivé au club, je pense que la phrase qu'il a le plus répétée en conférence de presse, en réaction d'avant-match, d'après-match, tout ça, c'est que il fallait que tout le monde soit concerné, que tout le monde était important dans le groupe, que c'était important que les entrants se sentent concernés, que même ceux qui n'étaient pas dans le groupe soient concernés, etc., etc., etc. Et pourtant, samedi, on a vu un match où il y a eu un seul changement. Et ce changement, donc, pour rappel, c'était Nathanaël Mboukou qui est sorti pour laisser sa place à Benjamin Bouchouari. Et sur la toute fin de match, sur les 10 dernières minutes, je crois. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette ambivalence entre d'un côté, on veut concerner tout le monde, et d'un autre côté, on fait confiance à une équipe plus ou moins type sur le terrain? T'en penses quoi, Tim?
Ouais, bah, je vais y aller parce que j'ai compris les réticences de Jesse, elles sont toutes normales pour quelqu'un qui a été joueur. La vérité, c'est que tu regardes le banc. Il y a un joueur de Ligue 2 sur le banc. C'est Bouchouari. Green, on a bien compris que c'était compliqué. Bentaïk, pareil. Petro, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans les précédentes émissions, mais je veux bien vous le passer comme potentiel joueur de Ligue 2. Fall, Maïla, Rivera. Là. Voilà. Il y avait des absents. T'as 0-0 dans un match qui peut basculer sur un coup du sort parce que la pelouse est catastrophique. On joue qu'un match par semaine, hein. On va pas jouer la Real Sociedad demain. Donc à un moment, un match par semaine, c'était quand même le tarif pour la plupart des joueurs. Il y a une époque, tu pouvais faire que 3 changements et t'en faisais pas toujours 3. Moi, ça me choque pas plus que ça. Et quelque part, ne pas faire de changement dans ce match-là, bah, je trouve que c'est presque une décision tactique de dire ouais, ça tient.
C'est ce que j'allais
ça...
dire. Ouais. C'était clairement le fait d'assumer de prendre un point à Paris, c'était bien quoi. Pour moi, de faire qu'un ouais. changement, et pas trop de profondeur de banc, des mecs comme Tardieu, Briançon qui sont blessés, enfin ou incertains. Voilà, c'était pas le match qu'il fallait gagner absolument pour monter de suite ou voilà, c'est prendre un point à Paris avec trois victoires derrière d'affilée, c'est un bon point qui peut être vraiment bonifié la semaine prochaine quoi. Donc comme disait Timo, c'était même un coup tactique de rester comme ça.
OK, le chat ils ont un avis là-dessus justement. Karl.
Ben écoute, il y a quand même des réticences. Effectivement, il y a Mathias qui nous dit que mon conduit, je l'ai trouvé carbonisé vers la 65e, il se faisait prendre de vitesse de plus en plus. Il y a Arthur qui nous dit pas d'accord avec Timothée, Masson était cuit le dernier quart d'heure, mon conduit restait derrière.
On n'est pas tous d'accord avec Timo, hein, ça c'est sûr.
Il aurait pu faire jouer Ben Taïg à la place, par exemple. Voilà. Donc les deux réticences étaient sur le cas de mon conduit et Masson qui avait les jambes particulièrement raides à la fin du match.
Ouais. Oups, je me suis planté. Petit mea culpa, le classement que je viens de vous afficher n'était pas du tout le bon classement. Je me suis gouré de slides. Voilà, celui-ci avec Saint-Etienne 4e, c'est le bon. Et bien justement, Saint-Etienne est actuellement 4e avec 42 points. Est-ce qu'on s'arrête là parce que 42 pour Saint-Etienne, c'est pas mal? Ou est-ce qu'on vise plus haut? Alors, j'imagine qu'on vise plus haut, mais dans cet objectif-là de viser plus haut, est-ce que selon vous, à cet instant de la saison, on peut se dire que top 5 c'est déjà bien, qu'on peut viser la troisième place ou même carrément viser les deux premières places et espérer une montée directe. À quel niveau d'optimisme on se place sur l'échelle de l'optimisme, Jesse, selon toi?
Ben, à l'image d'un peu de la saison, tout peut arriver. Tout peut arriver. On est quand même qu'à 5 points de la 10e place, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça peut aller très vite. Mais voilà, on voit à chaque fois qu'on discute, moi, quand j'allais voir les matchs en tribune, voilà, c'est toujours pareil. Une série, 2, 3, 4 matchs et paf, on recolle.
Ouais.
Et là, on a fait plus que recoller, qu'on a failli accrocher le top 2 à un moment donné. C'est voilà, ils ont publié un peu là cette semaine Saint-Etienne qu'on était meilleure défense du championnat, déjà ça
tout à fait avec 23 buts encaissés,
voilà, pour monter ça, pour moi c'est une évidence qu'on doit être dans le top 2, top 3 des meilleures défenses. Donc si on reste comme ça déjà, ça va nous amener des points. Et voilà, pour citer Antonetti, si on prend pas de but, on perd pas. Donc ouais. On avance. Voilà. Donc pour moi, on peut aller chercher plus haut. Ouais. On peut aller chercher plus haut et on doit essayer d'aller chercher plus haut.
Et dans ce plus haut, tu vois là plutôt la troisième place, la deuxième place. La première, ça va être compliqué, j'imagine.
Ouais, c'est vrai que bon, Angers a un effectif quand même qui est différent de Saint-Etienne. Ils ont des joueurs qui ont ils ont plus de profondeur, ils ont des joueurs qui étaient en Ligue 1, des mecs comme Loïs, Diony, des mecs comme au milieu, comment ça s'appelle, bon bref, ils ont des joueurs qui ont évolué en Ligue 1, qui ont de l'expérience, qui savent gérer les fins de saison. Voilà, on a rentré dans les 10 derniers matchs bientôt, 11 derniers matchs, voilà, ça va être le dernier coup de collier à mettre. Angers, pour moi, ça va être compliqué à aller chercher. Mais Laval à 3 points,
ouais.
C'est totalement un objectif, et ça doit l'être. Laval, c'est quand même pas un club comme Saint-Etienne, même s'ils font une très belle saison. La logique voudrait qu'on soit au moins égalité avec eux, quoi, qu'on passe devant.
D'autant qu'ils marquent un petit peu le pas en ce moment. Alors, et Timothée, toi, de ton côté, il y a Caen aussi qui nous talonne avec 42 points aussi, mais une différence de but un petit peu moins bonne. Toi, tu regardes plutôt vers le haut ou vers le bas?
Ah, je regarde vers le haut parce que je trouve que tu as le devoir, encore une fois, parce que tu es à l'AS Saint-Etienne, de regarder vers le haut, et que quand tu es à l'AS Saint-Etienne au milieu de Laval, Caen, Grenoble, Rodez, Ajaccio, je m'excuse, mais c'est un minimum de regarder vers le haut. Et j'ai cité ces équipes-là pour dire de regarder la troisième place. Après la première place, je pense qu'on n'ira pas la chercher. Auxerre est trop fort et trop loin. La deuxième, en revanche, ne dépend que d'Angers et de nous. Bien évidemment, il ne faudra pas passer à travers, mais je... c'est pas impossible. Ils marquent le pas. Là, j'imagine que cette émission s'écoutera aussi en podcast. Mais on est à la mi-temps. Il y a un partout entre Angers et Ajaccio. Les résultats sont un petit peu moins bons. Et je pense que la Saint-Étienne arrive là à un tournant déterminant de la saison. On sait que pour monter, en général, il faut faire une bonne série. Et si tu l'as fait à la fin de l'hiver et au début du printemps, c'est encore mieux. Elle est entamée, cette série. On a 4 matchs invaincus avec 3 victoires. Évidemment, tu joues au Serre. Si tu avais la bonne idée de ne pas perdre, les 3 matchs qui suivent, eux, en revanche, sont déterminants parce qu'il y a Concarneau, il y a Bastia et Valenciennes.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises, peut-être pas dans cet ordre-là.
Valenciennes qui est en détresse respiratoire avec 16 points au compteur, a priori c'est cuit pour eux.
Ouais.
Allô ?
Allô ?
Tim ? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Timothée. Bon, en attendant de le retrouver. Tiens, je me suis un petit peu perdu. Karl, dans le chat, est-ce que ouais, ça...
Bien sûr, il y a Patrice qui nous dit « Pour moi, la seconde place permettant de monter directement reste jouable. » C'est également l'avis de Romain qui nous dit « En tout cas, viser le top 2 est une obligation, le reste dépendra des autres. » Il y a Joe42 qui nous dit « Tout dépend de santé. Il y a plus de profondeur. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de profondeur devant à Angers. » D'ailleurs, je pense que Jesse, tu voulais parler de Pierrick Capel.
Pierrick Capel.
Voilà. La semaine décisive, notez-la bien, c'est Bordeaux, Grenoble, Caen en avril. Cette semaine-là, c'est vrai que ça sera face à des concurrents directs. Mais en tout cas, tout le monde, il y a quand même un vent d'optimisme dans le chat qui consiste à dire que ça coûte rien de viser cette deuxième place.
Oui.
Ouais, et puis, mais voilà, encore une fois, ça passera par une solidité défensive parce que voilà, si on arrive à pas perdre, chaque victoire sera vraiment bonifiée, quoi. Ce sera des victoires à 4 points quasiment, donc
ouais.
Ça sera voilà, c'est là où il faut rester aussi concentré sur le plan défensif.
Et puis mine de rien, on peut s'appuyer sur un gardien qui est performant, hein, qui est un des meilleurs gardiens.
Qui fait une très très belle saison. Bon, ouais. C'est l'un des meilleurs et qui fait une très très belle saison et qui est très très régulier. Donc je doute pas du tout de ses performances à venir sur la fin de saison.
D'ailleurs, en parlant de l'Arseneur, j'en profite d'avoir un gardien avec nous. Mine de rien, on oublie assez vite qu'en début de saison, il s'est blessé à l'épaule, mine de rien, assez gravement, parce qu'il a été éloigné des terrains pendant un petit moment. Tu t'attendais, toi, Jesse, à le voir revenir à son meilleur niveau ou est-ce que normalement, c'est un peu comme les croisés, tu te blesses à l'épaule si t'es gardien, c'est chaud de revenir.
Il m'a appelé quand il s'est fait cette... Il m'a appelé parce que le médecin lui a dit « Appelle Jesse, il a eu la même blessure que toi. »
Ok.
Donc, on a pas mal échangé. Et pour avoir échangé avec lui, parce que je sais qu'il a repris avec des douleurs. On ne peut pas faire autrement. Si on veut reprendre rapidement, c'est avec des douleurs. Donc, je savais qu'il allait reprendre rapidement, c'était sûr.
En jouant sous infiltration ?
Ouais, c'était même pas sous infiltration. Sous les infiltrations, moi j'en ai fait, ça sert à rien à cet endroit-là. Ouais.
Il a juste joué sous douleur.
Très peu efficace. Voilà, mais je savais qu'il m'a dit à la base, il devait reprendre déjà, il a repris bonheur. Il devait reprendre plus tard. Et moi je lui avais dit déjà, tu verras que tu reprendras plus tard parce que la douleur, tu l'auras, mais elle sera moins forte et tu te sentiras capable de jouer avec. Donc c'est ce qui s'est passé. Et après, oui, je ne doutais pas parce qu'en plus, c'est son épaule gauche. Donc c'est une épaule qu'il n'utilise pas pour relancer. Il y a moyen de le cacher un peu à l'entraînement, de faire autrement, de moins plonger, de travailler autrement et de soulager l'épaule. Et après, ça revient quand même. C'est quelqu'un qui est très assidu à la salle pour le renforcement. Le plus important, c'est bien de se renforcer et d'avoir une épaule bien maintenue par tous les muscles qui englobent l'épaule. On fait des travaux assez spécifiques et en général, ça revient, même si des fois on a des alertes, des douleurs. C'est une blessure qui se soigne quand même et qu'on arrive à gérer au niveau de la douleur.
En tout cas, il est revenu à un très très bon niveau après cette blessure, donc félicitations à lui.
Le niveau qui était le sien.
Ouais. Et puis bien aidé par une défense solide, effectivement, on est la meilleure défense du championnat de Ligue 2. Pour l'instant, Tim n'est plus avec nous, mais on va quand même parler du prochain match. Jingle.
Active Synthé Night Club. Le prochain match.
Alors, le prochain match, on l'a évoqué déjà un petit peu rapidement, ce sera contre la JOCR actuellement, premier de Ligue 2, meilleure attaque de Ligue 2 aussi, avec 51 buts marqués, particulièrement efficace devant les cages. On recevra à domicile, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a déjà plus de 30 000 billets qui ont été vendus, donc félicitations à tous ceux qui seront au stade. Il marque un petit peu le pas ces dernières semaines, puisque sur les 8 dernières rencontres, il y a 5 nuls et 3 défaites, et non, il y a 5... Attends. Oui, il y a 5 nuls, je crois, c'est ça. Ils ralentissent un petit peu. Pour ce match contre la JOCR, déjà, mon cher Jesse, qu'est-ce que tu vois comme composition d'équipe ? On sait qu'il y a le retour de Cafaro et Tardieu à l'entraînement aujourd'hui. Ouais. A priori, Wadji est toujours indisponible pour ce week-end.
Ouais, c'est compliqué. Je vois peut-être un Tardieu à la place de Fomba.
Ouais.
Voilà. Est-ce que Briançon va reprendre sa place sûrement, en étant capitaine.
Mais donc, alors, du coup, si Briançon reprend sa place plutôt à la place
c'est
de...
Ça, qui sort ouais. C'est ça. Qui sort. Ça, c'est... Je laisse le soir au coach. Et ça sera un choix, je pense, au vu des entraînements, de la forme du moment. Personne ne sera mieux placé que le coach pour voir et choisir qui sera le plus apte à jouer. Voilà, je vois peut-être des changements comme ça. Sinon, dans l'ensemble, je vois un peu la même composition.
On sait qu'a priori ce sera pas le cas hein, parce que Olivier Dalloglio préfère largement jouer avec une défense à 4, mais tu l'envisagerais toi justement pour profiter de la bonne forme de ces trois défenseurs centraux jouer avec une défense à 5?
Non, on est quand même solide depuis quelques matchs à 4, je vois pas l'intérêt de passer à 3 derrière, à part si c'est pour amener quelque chose d'offensif. Comme on disait, on est la meilleure défense. Il faut aussi jouer là-dessus, être solide. Et voilà, jouer la carte de passer à 3 derrière et de risquer d'avoir des petites incompréhensions ou de manque d'habitude, alors qu'en face c'est la meilleure attaque du championnat. Je vois pas trop l'intérêt, à moins que le coach dans la balance, il voit l'intérêt offensif supérieur à l'équilibre défensif, donc voilà, mais non, je pense pas, je vois pas trop l'intérêt de passer à 3 comme ça.
Ça voudrait dire avoir des latéraux beaucoup plus offensifs, et autant pour Ivan Masson, pourquoi pas, autant Denis Sapia, ces derniers temps quand même offensivement c'est compliqué, il a du mal notamment sur les centres. Et par rapport à Nathanaël aime beaucoup Mathieu Cafaro, si Cafaro est dispo, tu remets Cafaro à la place de Mbuku?
Je pense que oui, je remets Cafaro à la place de Mbuku et je garde Mbuku pour une fin de match. Ouais. Voilà, s'il y a l'opportunité, si on est mené d'un but ou si on est beaucoup mieux physiquement, qu'il y a 0-0 pour le dernier quart d'heure, des choses comme ça, c'est quand même quelqu'un qui est capable de dynamité, qui est très très vif et qui apporte énormément d'énergie, surtout quand il rentre comme ça. Donc voilà, et Cafaro, on voit que quand il n'est pas là, quand même, le jeu n'est pas le même.
Ouais.
Il apporte beaucoup de choses. Il y a aussi de la grinta, de la percussion. Il essaye vite de rentrer dans les surfaces adverses. Donc je pense que Cafaro sera le favori pour le 11 de départ.
Oui, et puis aime beaucoup, comme tu le dis, en sortie de banc pour apporter de la percussion, un petit peu de dynamisme sur la fin
je
de match.
Je pense qu'il peut... est mieux dans ce rôle-là pour le moment que dans un...
Je suis d'accord.
Au titulaire et...
Au vu de la composition d'équipe qui est affichée là sur le stream, le chat, ils ont des choses à dire, Karl?
Alors écoute, j'étais en train de me connecter avec Tim, donc il va arriver. Je reprends. Il y a Joe42 qui nous dit une défense à 3, non merci. Il y a Patrice qui recontextualise la rencontre en disant la meilleure attaque contre la meilleure défense est souvent une belle confrontation. Ils font gagner pour ne pas être décrochés de la deuxième place. Il y a David qui s'interroge, qui dit je me demande si contre Auxerre, il ne va pas mettre Bougeoir titulaire. Il va falloir de la percussion pour perturber cette équipe. Joe qui note que Mboukou est peut-être meilleur en rotation que dans la position ouais. titulaire. Sur Bouchouari sur ce match peut faire du bien au milieu. Quand il est à 100%, Cafaro doit jouer, mais c'est l'interrogation. Mouefek, s'il est de retour, doit jouer à la place de Tardieu, Joe 42, ou à la place de Fomba, c'est pour Pascal, donc il y a deux possibilités. Et sinon, pour Tony Duval, il n'y a pas photo, c'est un AD de sortir pour laisser sa place à Anthony Briançon.
Voilà. Ok. Alors, Tim, est-ce qu'on t'entend ?
Vous m'entendez là, moi je vous parle.
Yes, parfait, on t'entend nickel.
Il y en a qui arrivent un peu à la bourre, mais il y en a qui quittent l'émission comme ça.
Tu sais ce que c'est, Jesse ? Si c'est les connexions à Paris, c'est de la merde. Hein. C'est grande ville là, ça sert à rien.
C'est la pluie parisienne. on parlait du coup, Tim, du match à venir contre Auxerre ce samedi, donc avec une belle affluence déjà annoncée avec plus de 30 000 billets vendus. Et on parlait de la composition d'équipe. Et avec Jesse, on envisageait du coup Florian Tardieu qui prendrait la place de Lamine Fomba. Cafaro, s'il est dispo, on sait qu'il est de retour à l'entraînement aujourd'hui, qui prendrait la place de Mboukou. Qu'est-ce que tu verrais comme changement ? Est-ce que, déjà sur le choix de la charnière centrale, est-ce que Briançon, s'il est dispo, reprend sa place en tant que capitaine, et si oui, à la place de qui?
Moi, si Briançon reprend sa place, c'est à la place de Nadé. Pour moi, c'est une évidence. Encore une fois, Nadé a pas démérité, il a même fait des bons matchs, mais s'il y a une charnière qui est censée se dégager, c'est Briançon, Badoubintika. Après, on peut aussi estimer que cette charnière-là a donné satisfaction contre le PFC et qu'elle mérite d'être conduite. Donc, il y aura un choix à faire. Juste au moment où je me suis reconnecté, j'entendais parler d'une défense à 3. Je ne suis pas spécialement... Je suis pas très partisan.
Oui, je l'ai évoqué par principe, mais j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ni une solution qui risque d'être envisagée par Olivier Dalloglio, ni une solution très enviable. On a l'air d'accord.
Non, pour le reste, les joueurs que vous avez cités, effectivement, vu que Fomba, on est tous d'accord pour dire qu'il n'a pas fait un bon match samedi et que globalement c'est compliqué, s'il y a possibilité de le remplacer. Moi, j'appelle souvent à avoir des joueurs avec du QI football et même du QI tout court. Je pense que si tu peux avoir Tardieu et mon conduit, il ne faut pas nécessairement se dire que c'est soit l'un soit l'autre, que les deux peuvent jouer ensemble. Alors oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la fatigue de mon conduit en fin de match, mais il est quand même mieux qu'il a pu l'être auparavant. C'est un joueur qui compense quand même parfois son manque de vitesse par une science du placement que peu de joueurs du milieu de terrain ont actuellement. Donc ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez proposé, Cafaro et Tardieu qui viennent remplacer Fomba et pourquoi pas Mboukou. Mais voilà, Mboukou, après, moi, je ne le sacrifie pas non plus. Hein,
ouais.
Il peut rentrer à 60e.
Et Mouefek, s'il est dispo samedi, comment on lui trouve une place dans cette équipe ? Parce que effectivement, mon conduit et Tardieu, ils sont quand même sur une belle période. On aimerait bien les avoir en tant qu'organisateur du jeu. Mais du coup, Mouefek, ça lui laisse une place éventuellement à la place de Chambaud. Mais Chambaud est censé être plus offensif que Mouefek. Est-ce qu'on lui fait une place à Emen ?
Vu que Chambaud est notre playmaker et notre numéro 10, on peut pas l'enlever.
Ouais.
Ça me fait, je vous jure, ça me fait des frissons quand je le dis, ça m'a tiré plein de vomitifs comme ça. Mais c'est
méchant.
Non, mais je suis pas méchant, mais c'est qu'en fait, c'est par rapport aux émissions précédentes. Moi, Chambaud, j'ai du mal. Après, il me donne tort depuis la deuxième partie de saison. Tant mieux, j'en suis ravi. Ça reste pour moi des joueurs assez limités, mais encore une fois, c'est toujours le décalage que tu as entre le supporter que tu es au fond de toi, qui rêve Saint-Etienne en haut de la Ligue 1, et celui qui doit accepter qu'en Ligue 2, tu as des joueurs comme ça. Mais t'as pas nécessairement à lui trouver une place. Tu l'as dit, Dalloglio, il dit qu'il faut que tout le monde soit concerné. Et ben voilà, au hasard des suspensions, des blessures des uns et des autres, il y en a qui sortent un petit peu d'un registre de titulaire habituel, à eux de regagner leur place, à eux de faire des rentrées déterminantes et à eux de se montrer indispensables. Je pense que quand tu es Emen Mouefek ou Nadé, puisqu'on parlait de Nadé en défense, tu restes plutôt des jeunes joueurs qui sont plus complètement juvéniles, mais qui sont quand même plutôt des jeunes joueurs. Tu as le droit de les mettre sur le banc et de leur dire bah, à vous de me prouver que j'ai tort.
Je viens d'avoir une idée à la con. Vous avez le droit de me dire que c'est une idée à la con. Denis Sapia, il fait pas des bons matchs ces derniers temps. Emen Mouefek, on se souvient que quand il a commencé sa carrière, il a joué quelques matchs arrière-droit. C'est une idée à la con ?
Moi, je prendrais pas le risque de mettre Emen à droite pour des causes de blessure. Il, ouais. il serait tellement généreux qu'il serait capable de monter, revenir, et d'avoir énormément de volume et de risquer une blessure. Et puis, je pense qu'il est quand même beaucoup plus efficace au milieu par son volume et son impact qu'il a quand il joue au milieu. Il est très précieux aussi.
Ouais, ce serait
puis on en parlait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure aussi du fait qu'on est la meilleure défense de Ligue 2. Oui, Appia, il ne fait pas forcément des matchs extrêmement brillants. On l'a vu parfois en difficulté, même un peu prendre l'eau. Reste qu'il fait partie quand même des éléments clés de cette défense qui ne prend pas de but. Donc moi, je ne changerais pas tout en défense, en fait.
Ouais.
J'essaierais de surfer sur cette invincibilité, sur le fait de ne pas prendre de but, sur le fait d'être costaud, sur la bonne relation entre l'Arseneur et ses défenseurs. Donc, ouais, moi, je ne changerais pas tout.
Ok. Tu changerais pas tout, Binsika ? Non, bon, bref. Écoutez, je pense qu'on a dit déjà quelques petits trucs sur ce match contre Auxerre. Un petit prono dans le chat, messieurs, dames qui nous écoutaient, et un petit prono, Jesse ?
Moi, je vois bien soit un 0-0 ou soit un 1-1.
Ok, donc un match nul contre le premier du championnat, c'est pas mal, mais... Mais tu ne vois pas gagner.
J'aimerais surtout. J'aimerais.
Ouais.
Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Le Auxerre est vraiment très bon cette année.
Ouais.
Une belle saison, une belle dynamique, un beau groupe. Donc ça va être dur, mais on peut faire quelque chose.
Ouais.
On est sur une belle période, nous aussi.
Timothée ?
J'aurais misé sur un nul avec des buts. Donc j'aurais dit un 1-1. Je suis d'accord avec Jesse. Et quelque part, c'est comme je le disais tout à l'heure avant d'être coupé, c'est aussi ce que je souhaite parce que j'aimerais qu'on arrive à passer ce match sans prendre de défaite. Si on pouvait juste ne pas perdre, ce serait pas mal, et qu'après on soit en capacité d'enchaîner contre Concarneau, contre Valenciennes et contre Bastia, quoi.
Ouais.
Parce que là t'aurais une série qui aurait vraiment de la gueule, et là tu seras, à mon avis, au regard de la carburation d'Angers, tu seras plus très loin d'Angers à ce moment-là.
Ok.
Dans 4 journées, quoi.
C'est vrai que ça permettrait de faire une très très belle série si on arrivait à ne pas avoir de trou d'air là contre Auxerre. Karl, je veux bien ton prono et puis les pronos que tu as lus dans les chats YouTube et Twitch.
Alors mon prono, ça va être une petite victoire étriquée évidemment, mais un 1-0, parce qu'un petit clip clean sheet de l'Arseneur avec Batoubine Sika et Brian sont devant. Et dans le chat, victoire 3-1 pour Baptiste Notorious, 3-2 pour Franck Follet, donc il y a du spectacle, 1 partout pour Jean-Louis, 3-1 pour Tony Duval, 2-1, donc beaucoup d'optimisme sur YouTube. Et du côté de Twitch, c'est plus mesuré, quoi, qu'il y a quand même des 3-1 et des 2-1 qui arrive. Sinon, c'est des 2-1 pour nous, Gabriel, 2-1 Saperli Popet, 2-0 Saint-Té. Il y a El Bichot qui dit 3-2 pour Saint-Té, donc encore du spectacle. Voilà.
Eh ben, on espère en tout cas qu'on verra plus de buts que cette journée-là en Ligue 2, parce que ouais, en regardant le résumé de la journée, il y a eu 4-0-0 et 16 buts inscrits avant le match de ce soir. C'était une journée assez pauvre en buts. Sur ce, on s'approche de la fin d'émission, on va passer à la dernière partie. Vous pouvez jouer avec nous, bien sûr, dans le chat. Nous allons faire le Saint-Té Nightclub Challenge. Donc le principe, vous le connaissez depuis le début de la saison, à chaque fin d'émission, je pose 4 questions sur l'AS Saint-Étienne, et le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points à la fin de la saison remportera tous les revenus du Saint-Té Nightclub de la saison pour les offrir à l'association de son choix. Et nous allons allons commencer avec la première question qui est liée un petit peu à Saint-Étienne-Auxerre. En regardant un petit peu l'historique des matchs Saint-Étienne-Auxerre, Auxerre-Saint-Étienne, je me suis rendu compte que la dernière victoire de l'AS Saint-Étienne contre Auxerre remonte à la saison 2008-2009, au 20 décembre 2008 pour être précis, rendez-vous compte. Messieurs, Timothée et Jesse, combien pouvez-vous me citer de joueurs ayant participé à la rencontre côté stéphanois ? C'est une enchère, vous connaissez le principe. Vous me citez le nombre de joueurs que vous pensez pouvoir avoir de ce match contre Auxerre en 2008-2009, qui étaient soit sur le terrain, soit qui sont rentrés...
J'étais, mais il faut s'en rappeler.
Ouais. J'avoue que la première question, je commence avec du pas simple. Allez, Jesse, combien de joueurs tu peux me citer de ce soir-là qui ont pris part à la rencontre?
Allez, je vais dire... J'ai peur de la réponse de Timo.
Bah, commence par un petit chiffre, après tu pourras toujours surenchérir.
Ouais, allez, je vais dire 6.
6. Timothée.
Je vais tenter 7 pour être joueur, mais si tu vas à 8, je n'irai pas à 9.
Ouais. Ok. Jesse, est-ce que tu montes à 8?
T'as vu là comme il est fort, juste pour que je dise 8, tu vois. Allez, je vais dire 8.
Alors, 8 joueurs qui ont joué le Saint-Étienne-Auxerre, qu'on gagne 2-0.
Ah, mais en plus, ouais, il faut dire celui-là, ouais, parce que moi, je me rappelle un peu de l'effectif, mais qui a joué?
Ah, bah c'est ça la question. Ouais. Allez. 8 joueurs, c'est parti. Dans les cages.
Normalement, à cette époque là-bas, c'était Jérémy Jeannot.
Jérémy Jeannot, ça fait 1.
Il devait y avoir Baffé.
Il y avait Baffé, effectivement.
Il devait y avoir... Putain, mais je connais le... qui c'est qu'il y avait, mais qui c'est qu'à jouer. Peut-être Miralas, Payet.
Oh, Kevin Miralas, Dimitri Payet, ça fait 4.
Je me rappelle s'ils traînaient ensemble. Et qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'il y avait encore Feinduno à cette époque-là?
Eh bien non, il n'y avait pas Feinduno dans cette rencontre. Ah, c'est donc perdu, le point va aller à Timothée.
Il était dans l'effectif par contre.
Non, c'est pas cette année où il est parti en janvier ou un truc comme ça?
Peut-être, je sais plus exactement. En tout cas, ce soir sur le terrain, on participait à la rencontre. Jérémy Jeannot, Baffé.
J'avais en défense centrale, c'était pas Benalouane Bayal.
C'était Benalouane Bayal, bien joué.
C'était déjà Bayal. Putain, Bayal.
On avait Bayal Sal, on avait Johan Benalouane, on avait Johan Andreu sur le côté
Johan
droit.
Andreu, que j'allais dire, ouais.
Au milieu de terrain, il y avait Daisuke Matsui, Paolo Machado, Dimitri Payet.
Et
devant...
Ilan peut-être avec Baffé.
Tout à fait, il y avait Ilan, il y a David Gigliotti qui est rentré, il y avait Kevin Miralas, donc qu'on a cité, Cédric Varro également qui a participé à la rencontre.
Voilà, ça ne rajeunit pas.
Ah oui, et en toute fin de rencontre, il y a Mehdi Messaoudi qui est rentré, et j'avoue que...
Oui.
Pourtant, je suis vraiment Saint-Etienne depuis longtemps au quotidien, et je ne me souvenais plus de Mehdi Messaoudi. Voilà, je ne sais pas ce qui est devenu. Deuxième question, messieurs, ça va être une question au plus proche. Donc, vous allez tous les deux me dire un nombre et le plus proche remportera le point. Loïc Perrin est le défenseur de l'AS Saint-Etienne à avoir marqué le plus de buts sous le maillot vert. Combien de réalisations a-t-il au compteur? Timothée, je t'écoute. En match officiel, pas que championnat, ça compte aussi les coupes, tout ça.
Je sais pas, je dirais entre 10 et 15. Je vais dire 13.
13. Jesse, tu dis combien?
Pour faire plaisir à Timo, je vais dire 14.
14, et ben c'est Jesse qui l'emporte. Et vous étiez tous les deux assez loin, puisqu'il a quand même marqué 30 buts avec le maillot vert.
Ah oui, quand même.
Et ouais, c'est pas négligeable. Ah oui,
j'avais de la marge.
Et petite anecdote que j'ai trouvée en cherchant cette info, il est le 55e meilleur buteur de l'histoire du club. Ce qui, pour un défenseur, n'est vraiment pas mauvais.
Il est dans toutes les stats, Loïc.
Ouais. Troisième question, je vais vous donner la bio d'un joueur. Il va falloir trouver qui est ce joueur. Donc quand vous pensez avoir la réponse, vous dites votre prénom et je vous interroge. Je suis un joueur né en 1999 à Sarcelles. Je rejoins la SSE en 2014 en provenance de l'AAS Sarcelles, du coup, pour terminer ma formation. Je joue mon premier match en professionnel le 20 mai 2017 sous les ordres de Christophe Galtier à l'occasion d'une rencontre de Ligue 1 face à l'AS Nancy-Lorraine que nous perdrons malheureusement sur le score de 3-1. Je ne réussis pas à m'imposer réellement dans le groupe professionnel, alors bien que titulaire indiscutable avec la réserve, je pars en prêt pour un an à Quevilly-Rouen Métropole. Je participe activement à la montée du club de Quevilly en Ligue 2, alors l'ASSE me rapatrie à la maison. Malheureusement, je participe à la descente du club en Ligue 2.
Timothée. Nadé.
C'est effectivement Mickaël Nadé. En étant apprécié par le coach Duprat, alternant le bon et le moins bon, je suis actuellement dans une bonne période sous le maillot vert. Je fête aujourd'hui mon anniversaire. Je suis Mickaël Nadé et j'en profite du coup pour lui souhaiter un très bon anniversaire de la part du Synthé Night Club en lui souhaitant encore plein de belles performances cette saison. Dernière question, ça va être un au plus proche. Combien de joueurs ont porté le maillot de l'équipe de France pendant qu'ils portaient le maillot vert? Sachant que mes stats remontent jusqu'à 1904, si jamais il y en a avant 1904, je ne les ai pas pris en compte. Donc combien de joueurs ont porté le maillot de l'équipe de France bien sûr. Mathis Amougou ne compte pas, pendant qu'il portait le maillot vert.
Pendant qu'il jouait à l'ASSE.
De quoi? Ouais, pendant qu'il jouait pendant à la SS, oui. Si, par exemple, William Saliba ne compte pas parce qu'il a été appelé en équipe de France, mais après avoir porté le maillot vert. Alors, Jesse, je commence avec toi.
C'est dur parce que pendant une époque, il doit en avoir quelques-uns.
C'est pas facile. Hein. J'avoue que c'est un peu du pif, celle-là. Mais bon, c'est un ordre de grandeur.
Ouais, et puis en plus, je passe en premier, donc j'en connais un qui va dire le chiffre juste au-dessus. qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais dire, allez, une 40, ça fait beaucoup, même 40 peut-être. Je vais dire une trentaine, même 30, ça me paraît un peu beaucoup.
30?
Ouais.
On valide 30. Tim?
Ouais, alors moi je dis beaucoup plus. Parce que il me semble quand même qu'à une époque l'équipe de France c'était quasiment la Saint-Étienne. Enfin, même qu'il y a une anecdote où il y a un match, il y a un match où il y a 9 joueurs de l'équipe de France qui sont stéphanois, je crois. C'est dans les 50, des trucs comme ça. Du coup, moi d'instinct, je dirais, tu me fais baisser mon chiffre. J'aurais dit plus, mais je vais dire 60.
60, eh bien écoute, tu es très proche, Timothée, puisque c'est 58 joueurs qui ont porté la tunique bleue en même temps que la tunique verte.